Eh bien, c'est toujours Bruit de Chine sur le 106.6 de la bande FM jusqu'à 14h. Nous sommes en compagnie de l'avocat du droit fiscal et des affaires expatrié en Chine pendant 3 ans. Et il est revenu puisqu'il est dans le studio de Radio Campus à Lille, Gauthier Vandenschrick. Alors, que diable est allé faire en Chine un avocat fiscaliste français ?
Ah, chez Chini d'abord. Merci, madame. En fait, j'ai toujours été attiré par l'Asie, mais il se trouve que mon épouse, étant fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères et sinophone et sinophile, avait postulé pour un poste à Pékin. Et après 4 années au Vietnam, où moi je faisais les allers-retours entre mon cabinet à Lille et Hanoï, elle m'a dit, mais elle m'a proposé de raccrocher la robe, de la suspendre, comme on dit, pour vivre à l'expatriation. Et j'avoue que j'avais été frustré pendant ces 4 années de Vietnam de ne pas vivre comme un expatrié. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Puis je dois vous avouer que j'avais une certaine lassitude dans mon métier. Et raccrocher la robe m'a semblé un break intéressant. Et j'ai accepté donc de la suivre à Pékin.
Alors c'est plus qu'une année sabbatique et en plus c'est en Chine. Alors avant la Chine, il y a eu une vie et même avant votre profession d'avocat.
Oui, oui. Bon, ceci étant, j'ai toujours voulu être avocat. C'est une rencontre extraordinaire à l'âge de 11 ans avec une amie de mes parents qui était avocate à Mulhouse. Et je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. Et vous savez, on pose toujours la question, mais comment tu peux défendre quelqu'un que tu sais qu'il a tué ? Et elle m'a parlé du droit à la réparation, de l'oubli, la possibilité de changer, de la rédemption. Ça m'avait énormément plu et je me suis dit, je veux faire ça. Mais en fait, durant mes études, j'ai passé le concours d'inspecteur des impôts, ce qui peut sembler un peu paradoxal. Et j'ai été inspecteur des impôts donc, et pendant 6 années, mais avec toujours la volonté de devenir avocat. Et effectivement, le privé est venu me chercher et donc j'ai accepté de démissionner en fait, puisque je n'avais pas terminé mon premier contrat avec l'État. Et je suis devenu avocat à partir de 1991 grâce à la réforme de la profession.
Ah, comme quoi les réformes ont du bon. Alors vous êtes un habitué de l'Asie puisque vous avez vécu et travaillé au Vietnam. Est-ce que vous vous souvenez de votre première impression quand vous avez débarqué en Chine ?
Ah, la première impression, je me rappelle parce que c'était dans l'avion. Hein. On passait ce grand désert absolument extraordinaire. Et puis d'un seul coup, on commence à avoir un peu de verdure. On passe au-dessus de la Mongolie intérieure. Et puis brutalement, c'est des constructions à perte de vue. Et on se dit, ah là là, oui, effectivement, c'est vaste. Oui, c'est grand. Oui, il y a du monde. Et vous sortez de l'avion, c'était en août 2013, on ouvre la porte de l'avion, c'est cette bouffée de chaleur et cette pollution qui vous prend à la gorge tout de suite, et en se demandant, oh là là, où est-ce que je mets les pieds ? Et c'est cette première impression.
J'ai presque la même, parce que je suis arrivée en août pour la première fois en Chine aussi, et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Le bruit, le fait de ne pas comprendre tout ce qui se passe autour de soi, la moindre affiche, le moindre panneau, le son du chinois et la chaleur. Effectivement, ceux qui sont arrivés en décembre, ils ont d'autres impressions.
Ils ont d'autres impressions un peu froides.
Voilà. Ah oui, parce qu'en décembre, il fait vraiment très froid à Pékin. Alors donc, plein d'enthousiasme pour votre nouvelle vie, vous redevenez étudiant et vous apprenez le chinois.
Je dirais étudiant, je commence même à la maternelle, si j'ose dire, puisqu'il faut réapprendre le B.A.B.A., si j'ose dire, qui n'est pas le B.A.B.A., mais en tout cas ses premiers sons, ses premiers caractères. Et en 6 mois, je suis passé de la maternelle jusqu'à l'université. Il a fallu rattraper un cursus un peu long. Et effectivement, j'ai terminé à l'université de Wudaoko en 4 semaines de mandarin intensif. Ça permet de survivre. Hein. Je pouvais pas faire une conférence et surtout pas exercer mon métier. Et de toute façon, c'est pas possible avec ce que j'avais appris. Mais au moins, je pouvais aller faire le marché puisque j'adore cuisiner. Et comme à ce moment-là, je ne travaillais plus depuis 6 mois, je peux vous avouer qu'après 30 ans de travail intense dans les métiers que j'ai exercés, je me suis senti dans une mentalité desperate housewife un peu dure à supporter.
Et donc le chinois était là. Cela dit, les femmes d'expatriés, c'est un peu ça aussi. Souvent, elles se mettent au chinois parce que...
Oui, mais il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui vivent l'expatriation un peu comme une punition, parce que le conjoint, alors je ne vais pas dire forcément femme d'expatriée,
femme d'expatriée.
Mais il y en a qui ne le vivent vraiment pas bien, c'est un peu une punition de 3 ou 4 ans. Mais pendant ce temps-là, effectivement, les salaires, les revenus sont importants et c'est une sorte de mise entre parenthèses et j'ai du mal à comprendre ça. Moi, je crois que j'étais vraiment très pressé de pouvoir parler quelques mots, parce que vous savez, les Chinois, enfin le Chinois de la rue, mais moi je le trouve extrêmement sympathique, il a quelque chose de très proche du français, il aime bien manger, et Dieu sait qu'on mange bien en Chine, Vietnam aussi d'ailleurs, mais il aime bien rigoler pour un oui, pour un non, enfin moi j'avais beaucoup de plaisir à aller manger dans les gargotes, et puis écouter un peu tout ce qui se passait autour de moi, puis on me regardait toujours avec, un peu d'intérêt.
Un peu de curiosité, toujours. Même si il y a de plus en plus d'étrangers, malgré tout, la curiosité reste. Et donc, vous voilà à l'ambassade de France à Pékin, dans un poste improbable pour un avocat, il faut bien le dire, affecté au centre des archives et de documentation. C'était quoi votre travail au quotidien ?
Alors, le centre d'archives et de documentation, en fait, il faut savoir que donc, l'ambassade, les consulats, émettent des courriers, des notes, diverses choses, eh bien, tout doit être archivé, coté, enregistré. Il y a des dossiers à faire parce que eh bien, un diplomate pourrait avoir besoin de telle ou telle note d'un autre diplomate quelques années auparavant. Donc il y a un système de cotation et c'est ce qu'on faisait. Donc en fait, il y avait tout ce qui partait, tout ce qui sortait de l'ambassade, mais il y a aussi tout ce qui arrivait de la présidence de la République, du ministère des Affaires étrangères, des ministères, des préfectures. Et il fallait pouvoir retrouver à tout instant, en fonction des codes, alors c'est des codes spécifiques qu'on mettait, où se trouvaient les choses. Mais c'était très intéressant parce que ça m'a permis de tout lire. Même si vous lisez à toute vitesse pour savoir où vous allez coter la chose, mais vous prenez connaissance de choses extraordinaires.
Et du coup, vous avez appris un nouveau métier. Qu'est-ce que la valise diplomatique et comment ça fonctionne ?
Ah, la valise diplomatique.
Alors là, ça fait rêver, la valise diplomatique.
C'est la bouteille à encre. Je crois que mon beau-père m'appelait Barbouze, mais ça n'a strictement rien à voir. En fait, ça n'est absolument pas prosaïque. Et d'ailleurs, il y a eu un reportage fait par vos collègues de France 3, Pièce à conviction, qui était passé. Reportage qui passait en mars 16, je crois, à la télé. Et donc, quand vos collègues étaient là, que je leur ai dit que j'étais à la valise diplomatique, là, j'ai vu les yeux s'allumer. Mais on veut filmer. J'ai dit, mais non, c'est top secret, c'est hors de question. Et le numéro 2 de l'ambassade à l'époque, M. Pellet, avait refusé aussi. Et c'est l'ambassadeur que nous avions à ce moment-là, Maurice Gourde-Montagne, qui est une personnalité extraordinaire. Un bonheur de travailler pour cet ambassadeur qui a autorisé à ce que la valise diplomatique soit filmée. Et donc, j'ai présenté la valise diplomatique qui sont en fait des sacs, j'allais dire, de toile, de grosses toiles, de jute ou de coton bleu, frappé de bleu, blanc, rouge, qui sentent le kérosène, la graisse des soutes d'avion, qu'on manipule comme des sacs postaux de manière indélicate. Et simplement, il y a effectivement, on met les scellés dessus de façon à ce que, en fait, les autorités douanières chinoises ne puissent pas avoir accès au contenu de la valise diplomatique qui ne contient que le courrier et les échanges entre l'ambassade, les consulats et le gouvernement.
Mais ce qui fait fantasmer, c'est le côté secret des choses, évidemment.
Ah oui, ça,
voilà. Ça, et puis alors, du coup, que ce sont des sacs postaux et pas une valise, ça, c'est beaucoup moins romantique, mais bon.
Alors si, allez, je vais vous faire rêver un peu. De temps en temps, il y avait effectivement un agent du ministère qui venait avec une valise à la main, mais il n'y avait pas de, si j'ose dire, de menottes rattachant à... C'était un gros sac de cuir, très élégant d'ailleurs. Et voilà, ça, effectivement, c'était des choses vraiment plus confidentielles qui pouvaient être dedans, qui devaient rester sous sa surveillance permanente. Sinon, la valise allait en soute des vols Air France.
Oui, bien sûr. Mais en fait, n'importe qui n'ouvre pas le sac. Alors du coup, vous, en Chine, vous n'exercez plus la profession d'avocat, mais vous avez en tout cas un excellent poste d'observateur à l'ambassade de France. Que diriez-vous du droit chinois des affaires en tant qu'avocat français ?
Eh bien, ça m'a... Comment dire ? Je suis plus que dubitatif. Et aujourd'hui, j'allais dire quelque part, c'est dans l'un des discours de Xi Jinping, quand il était à son deuxième mandat, il parlait « on va faire maintenant de notre pays un état de droit ». j'allais dire, à contrario, il reconnaissait par lui-même que la Chine n'est pas un état de droit. Et aujourd'hui, c'est vrai que une entreprise française, européenne, américaine, qui aurait un conflit commercial de droit des affaires avec des entreprises chinoises, s'il le porte pour son malheur devant les tribunaux chinois, je parlerai de chinoiserie, mais c'est pas un vain mot, la chinoiserie. Mais on ne connaît pas le juge. Enfin, il y a des articles, il y a des codes, il y a des choses comme ça. Mais ça va être la loi du plus fort et le plus fort dans son pays.
Oui,
donc, ça n'est pas l'entreprise française. Et autant que faire se peut, il faut vraiment toujours axer, quand on rédige des contrats, soit essayer d'exiger que ce soit la Chambre de commerce internationale de Paris, enfin la Cour internationale de Paris, qui puisse examiner les conflits, soit avoir une clause qui permette de résoudre amiablement le conflit et éviter les tribunaux tant que faire se peut.
Alors, puisqu'on parle de contrat, on n'est pas obligé de parler de litige d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les caractéristiques d'un contrat chinois et puis du coup, en quoi il diffère d'un contrat français ?
Aujourd'hui, c'est... Comment dire ? Le contrat chinois, alors ça dépend si vous vous portez à l'international ou pas. Parce que si vous vous portez à l'international, le contrat chinois, enfin, ce qui va se délayer dans le contrat international, qui va être plus basé, j'allais dire, sur la common law américaine et anglaise, plutôt que notre droit positif. Le contrat chinois en lui-même, c'est entre Chinois, j'allais dire, il y a des articles, il y a des textes, il les respecte, il y a des tribunaux, il y a des cours, mais encore une fois, il y a un contrat, c'est pas pour autant qu'on va en suivre les dispositions.
Mais c'est le principe.
Et je peux vous en parler, puisqu'on a eu un conflit dans le cadre de notre premier appartement avec la propriétaire. Le contrat était en chinois et en anglais. La propriétaire n'entendait absolument pas respecter les dispositions du contrat. Et il a fallu un moment que je dise que j'étais avocat, que je comprenais ce qu'elle échangeait avec l'agent immobilier. Et pour dire, on va respecter maintenant le contrat.
Oui, mais c'est pas dans ses habitudes, la pauvre dame.
Non, au point qu'on a fait un déménagement à la cloche de bois pour ne pas vous le cacher.
Ah oui, c'est peut-être aventureux de vivre en Chine. Mais alors donc, vous ne diriez pas que la Chine est en train de réussir sa mutation entre son droit traditionnel, quand même, qui remonte à peu près 4000 ans, et notre droit moderne occidental.
Non, on en est loin.
Deux manières de penser, mais on n'y est pas encore.
C'est deux manières de penser. Je peux vous parler, par exemple... Autant le Vietnam connaît, par l'influence française, puis l'influence américaine, la notion d'avocat, de défenseur, de défendeur, autant la Chine, il n'y avait pas de défenseur. On n'a pas cette tradition de l'avocat qui intervient pendant des millénaires au profit du plus faible. Non, il y a des mandarins, il y a des personnes qui sont juges, mais on n'a pas cette tradition de la défense.
Et c'est peut-être dû au fait que quand on parle de droit chinois, il y a Confucius qui est jamais loin. Et Confucius, il y avait une hiérarchie, on ne défendait pas les plus faibles.
Tout à fait. Et depuis l'avènement, l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, on parle de plus en plus effectivement des règles du confucianisme. Chacun est à sa place et chacun opère dans la place qui lui est dévolue. Et aujourd'hui, ce que veulent les parents des enfants chinois, c'est de permettre à leur enfant la réussite de façon à passer à une place supérieure. J'allais dire, on retrouve les dérives du grand mandarinat des époques qui ont suivi les dynasties Han et les suivantes. C'est-à-dire qu'on va tout faire, on va faire des bêtes à concours pour essayer de passer au-dessus.
Est-ce que ça veut dire que les règles du capitalisme rouge sont incompatibles avec le droit occidental ?
Elle mérite en tout cas d'être adaptée.
Bon. Avant la modernisation de la Chine, entreprise depuis une trentaine d'années donc, du coup, comment se réglaient les litiges entre les sociétés chinoises et étrangères ? Parce qu'il y en avait déjà des sociétés étrangères. Alors, comment ça se réglait ?
Là, j'avoue, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas les réponses à ce sujet. On n'a pas vu passer grand-chose. Pourtant, il y a des décisions de justice. Il y avait Stéphanie Balm du CNRS qui a fait une très très belle étude. Je peux en parler, c'est moi qui réexpédiais tous les bouquins de compilation.
Bien. Parlons-en.
De compilation des décisions chinoises d'après la Révolution, mais aussi d'avant la Révolution. Donc il y a un siècle de compilation de décisions des tribunaux et des cours. Et on y trouve aussi des décisions qui ont pu affecter des entreprises occidentales. Mais il faut bien voir une chose, c'est qu'avant la Chine de Mao, c'était le règne absolu des Occidentaux sur les décisions qui ont été rendues. J'allais dire, il y a eu un retour de balancier par la suite.
D'accord. Et c'est en 79 qu'a été rétabli le ministère de la Justice qui avait disparu sous Mao. Je me suis dit que ça correspondait bien à cette ouverture de la Chine. Est-ce qu'il existe donc aujourd'hui des avocats d'affaires en Chine ?
Oui, bien sûr. Il y a d'abord parce que vous avez une formation très importante des avocats d'affaires, c'est-à-dire que les étudiants chinois vont aller étudier essentiellement aux États-Unis et en Angleterre, un peu en France. On en voit beaucoup. On en voit ici sur le campus, d'ailleurs. C'est peut-être plutôt des scientifiques. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des avocats d'affaires chinois qui travaillent dans des grands groupes internationaux, et on commence à avoir des grands groupes chinois d'avocats d'affaires, dont certains sont installés à Paris, qui leur permettent effectivement aujourd'hui de comprendre le droit occidental, de s'y adapter et d'y apporter leur propre manière de voir et de faire.
Est-ce que ça veut dire aussi que les entreprises chinoises et françaises ont appris depuis 30 ans à composer avec ces deux cultures que tout oppose ?
Oui, tout à fait. Oui, je pense effectivement qu'elles ont appris à composer. On le voit, il y a des très belles réussites, hein, comme pour Airbus ou d'autres grandes entreprises. Auchan qui s'est implanté là-bas, Carrefour aussi. Les grandes entreprises ont compris la façon dont ça se passait. Et puis, encore plus près de nous, Decathlon qui opère une très très belle percée en Chine parce qu'il y a une vraie demande, une classe moyenne supérieure, une classe moyenne aisée, d'accéder à des standards plus occidentaux et notamment un peu le culte du corps que Decathlon, Domios, etc. nous ont apporté. Et oui, il y a de quoi faire. Il y a vraiment une belle adaptabilité qui existe.
Ça veut dire que chacun, de là où il est parti, a fait un pas vers l'autre.
Oui, un pas vers l'autre. Aujourd'hui, avec la route de la soie, c'est plutôt un très grand pas en avant vers nous que fait la Chine.
Oui, alors ben, vers nous et puis vers le monde entier.
On est bien d'accord.
Alors là, il faudra de toute façon refaire une émission spéciale sur le droit chinois et la nouvelle route de la soie.